titre du journal de la mi-journée.
On continue à parler budget au Grand Conseil vaudois aujourd'hui. Les députés doivent boucler le premier débat sur le dossier d'ici la fin de la journée. Isabelle Bertolini fera le point sur l'avancée des discussions. Le canton de Vaud toujours a encore renforcé les mesures sanitaires dans les écoles. Masque obligatoire dès la 7e année, autotest et fête de Noël annulée font partie des décisions en vigueur dès aujourd'hui. Le chantier du tunnel des Évouettes va reprendre en 2022. Une nouvelle méthode va être employée afin de limiter les déformations en surface. Le canton du Valais prévoit un surcoût de 7 millions de francs. Les Covid Angels sont de retour sur les pistes de ski valaisannes. Une opération à 1,45 million de francs décidée par le canton qui entend à tout prix assurer la bonne tenue de cette saison hivernale. Le dossier de notre correspondant parlementaire Serge Jubin s'intéressera aujourd'hui au retour partiel de la gratuité des tests Covid. En basket, le BBC Montéchablais a l'occasion aujourd'hui de confirmer sa sortie de crise. Et en ring hockey, l'avenir de la Coupe des Nations est menacé à cause de tensions entre plusieurs fédérations.
Des onomatopées pour décrire la météo du jour, à savoir flic-floc ou encore crutch. Bulletin complet concernant la météo en fin de journal. Journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le Grand Conseil vaudois poursuit son étude du budget 2022 du canton. Un budget qui, on le rappelle, affiche un déficit de quelques 188 millions de francs. La mission du jour des députés en terminait avec le premier débat, Isabelle Bertolini.
Eh oui, c'est vrai Thierry, c'est un impératif. La séance d'aujourd'hui est estampillée enfin. Autrement dit, les élus ne pourront quitter l'hémicycle qu'une fois qu'ils auront fait un premier tour complet du budget. Faisons donc le point sur l'avancée de ce matin. Les députés ont terminé le premier débat sur les projets de loi et sont en train de terminer celui sur les décrets qui accompagnent ce budget et qui ont donc un impact sur lui. Les élus ont notamment validé une série de modifications fiscales. Ils ont par exemple augmenté la déduction pour frais de garde d'enfants de moins de 14 ans de 1 000 francs, portant le montant total à 10 100 francs. Ils ont aussi accepté d'augmenter les taxes sur le stockage des déchets et ont modifié la loi sur l'énergie engageant le canton à installer dans la mesure du possible des panneaux solaires lors de la construction ou la rénovation d'un bâtiment dont il est propriétaire. Ceci pour atteindre l'autonomie électrique à 2035. Les projets de loi et de décret sont donc étudiés. Le Grand Conseil va pouvoir entamer le gros du travail cet après-midi, l'étude du budget département par département. C'est là que les différents groupes pourront déposer leurs amendements, mais ils ne devraient pas être nombreux à être acceptés. Le budget s'inscrit en effet dans le petit équilibre avec ses 188 millions de déficits. Si ce déficit grandit, les députés savent qu'il faudra une majorité qualifiée pour valider ce budget, de quoi refroidir les plus hardis.
Merci beaucoup Isabelle. Ce premier débat sur le budget vaudois reprendra donc cet après-midi. Dans son rapport de novembre 2021, l'agence de notation financière S&P Global Ratings annonce que la note à long terme AAA attribuée au canton de Vaud est reconduite. L'agence constate, je cite, « une très bonne gestion financière du canton, un cadre institutionnel extrêmement prévisible et favorable au canton suisse, et une économie locale riche et diversifiée ». Dans un communiqué, le Conseil d'État vaudois salue cette nouvelle notation au sommet de l'échelle et qui confirme selon lui l'équilibre de sa politique financière.
Oui pour les masques et non pour les spectacles de Noël dans les écoles vaudoises.
Ainsi en a décidé le Conseil d'État à la suite des dernières annonces du Conseil fédéral qui laisse désormais les cantons tranchés. Vaud a constaté une flambée des cas chez les enfants de la 5e à la 8e année. Il faut donc protéger les personnes à risque au bout de la chaîne d'infection. Il a également été décidé de faire l'impasse sur nombre d'activités de fin d'année, dont toutes celles incluant les parents. Giancarlo Valceschini, directeur général de l'enseignement vaudois, au micro de Joël Espy.
Nous avons fait un choix, c'est de privilégier toutes les activités qui sont destinées aux élèves. Donc ces activités-là pourront avoir lieu. Donc si un spectacle ou des artistes viennent dans l'école ou si les élèves se rendent à un spectacle, pour autant qu'il soit purement scolaire, qu'il n'y ait pas un mélange de public enfants et adultes, ils ont lieu. Par contre, toutes les prestations auxquelles les parents sont invités en fin d'année, les chantées de Noël, ce genre de choses, sont malheureusement interdites puisqu'on ne veut pas amener de parents, enfin mélanger les publics dans l'enceinte scolaire.
Est-ce qu'on va pouvoir offrir des cadeaux au maître ou à la maîtresse ?
S'ils sont décontaminés, oui.
Dans les écoles, les dépistages seront également renforcés avec des autotests distribués dans les classes, des 4 élèves absents pour cause de maladie. Sans passer outre le secret médical, la responsabilité est confiée aux parents de faire ensuite passer un test PCR à leur enfant en cas de résultat positif. Du côté des enseignants, le canton se prépare déjà à contrer une éventuelle pénurie cet hiver. Des stagiaires de la HEP seront mis à disposition. On retrouve Giancarlo Valceschini.
Oui, on a dû solliciter, comme on l'avait déjà fait l'année dernière, la HEP, pour qu'ils mettent des stagiaires à disposition afin qu'ils puissent effectuer des remplacements courts en général. Évidemment, on sait que ça peut durer plusieurs jours quand même, hein, puisque si on est en quarantaine, on est 10 jours en principe absent du travail. Donc ça a un impact, évidemment, puisque les enseignants sont aussi parents et ils ont aussi des enfants qui parfois peuvent être positifs. Donc effectivement, on a dû remobiliser et puis mettre en place ce système. Mais on observe quand même qu'il y a moins d'absence d'enseignants cette année au mois de novembre qu'il y en avait l'année passée à la même époque. Donc je ne veux pas dire que c'est rassurant, mais en tous les cas, c'est moins marqué que l'année passée à la même époque.
Toutes les mesures vaudoises vont donc courir jusqu'à la fin de cette année, pour l'instant.
La 32e édition du Montreux Comédie Festival a fait rire un nombre record de spectateurs.
15 000 personnes se sont rendues dans l'auditorium Stravinsky entre le 1er et le 7 décembre, et ce pour le plus grand bonheur des organisateurs, dont les attentes ont été largement dépassées. Cette cuvée 2021 a rassemblé une soixantaine d'artistes suisses et internationaux, et pour la première fois, une plateforme de streaming a été testée. Elle permet une diffusion en direct des contenus au-delà des frontières helvétiques. Un essai jugé concluant et qui sera pérennisé l'an prochain, entre le 23 novembre et le 3 décembre. Le procès en appel de Lionel Girardin s'est ouvert ce matin à Lausanne. Le tribunal cantonal se penche sur la condamnation de l'ancien municipal Veuvezan à 12 mois de prison avec sursis pour gestion déloyale des intérêts publics. Pour mémoire, dans son jugement du 4 mai, le tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois avait jugé la culpabilité de Lionel Girardin relativement lourde. Il avait conclu qu'entre 2013 et 2018, l'ex-municipal avait occasionné un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs à la fondation Apollo, active dans le logement social et subventionné par les collectivités publiques.
Les Évouettes verront le début du bout du tunnel en 2022.
Une partie du chantier du nouvel ouvrage est à l'arrêt depuis avril et la reprise du creusement du portail nord côté Le Bouvray est permise grâce à une nouvelle méthode d'excavation. Elle garantira la stabilité du terrain et la mise en sécurité des habitations en surface. Le retour des machines dans les sous-sols Évouettou est un soulagement pour Vincent Pellissier. Il est l'ingénieur cantonal et chef du service valaisan des routes.
Alors bonne nouvelle, effectivement, on est en train de finaliser le contrat hein, pour la reprise. On parle quand même d'une plus-value de 7 millions, c'est pas anodin. On doit soigner un petit peu tous les détails pour éviter que ce chantier, qui est un chantier conséquent et compliqué, ne coûte encore plus que ce qu'il coûte déjà. On a trouvé une nouvelle méthode, on fait ce qu'on appelle une double voûte parapluie. On fait des avances de creuse avec des petites casquettes qui nous permettent ensuite, en toute sécurité, de poursuivre la creuse sans que ça ne se déforme trop au niveau des maisons au-dessus.
Il a fallu arrêter le creusement de la galerie nord afin de limiter les déformations et réévaluer les risques. Mais ce n'est pas pour autant que le calendrier sera chamboulé. On retrouve l'ingénieur cantonal Vincent Pellissier.
On a pris un peu de retard, oui et non, parce que effectivement sur ce front d'attaque, on n'a pas pu avancer, mais on a pu continuer à avancer sur d'autres chantiers adjacents, l'autre portail où on a aussi fait une attaque de l'autre côté, ou bien la galerie de sécurité. Donc effectivement, on a pris du retard sur cet élément-là, mais l'un dans l'autre, on gardera à peu près le même horizon temporel, à savoir fin 2023 et au pire 2024.
Pour rappel, le montant total de ces travaux s'élève à 130 millions de francs. C'était un sujet réalisé par Guillaume Abbey.
Il y aura des anges dans les stations de ski valaisannes.
Le projet des Covid Angels a été reconduit par le département cantonal de l'économie et l'association des remontées mécaniques. Quelques 100 chômeurs seront temporairement engagés dans les stations valaisannes afin de remplir un rôle bien précis, lequel nous est détaillé par le chef de la section du placement public à l'État du Valais, David Felet.
Les Covid Angels ont un rôle prioritaire d'information, c'est-à-dire qu'ils sont prioritairement présents pour faire respecter tous les plans de protection sanitaire, que ce soit ceux du Conseil fédéral, du Conseil d'État et ou des remontées mécaniques. Ils soutiennent aussi les agents d'exploitation des sociétés de remontées mécaniques dans l'organisation des files d'attente. Et puis, ils collaborent effectivement aussi à la mise en place et à l'information à tous les clients des plans de protection sanitaire.
Les Covid Angels seront donc bien présents sur les pistes, tout comme les skieurs. Même si en raison du pass sanitaire obligatoire dans les lieux de restauration, certains habitués pourraient faire l'impasse cette saison. C'est ce que craint Pierre Mattet, il est le directeur des remontées mécaniques valaisannes.
Je dirais qu'il faut être assez réaliste. Probablement que l'on ne tournera pas en pleine capacité, en tout cas à certaines périodes. Et cela pour autant que tous les clients, les hôtes fidèles du ski en Valais puissent venir et soient présents. Mais effectivement, le pass sanitaire dans certains établissements va limiter en partie cette fréquentation. Après, on sait que c'est un sport de plein air, donc ça devrait bien se passer, mieux se passer que dans certains espaces clos.
Notons encore que le retour des Covid Angels ne se fait pas sans frais. Il coûtera 1,45 million de francs à l'État et à l'Association des remontées mécaniques. Le Conseil des États campe sur une ligne dure face aux auteurs de violences contre des policiers ou autres fonctionnaires. Des peines pécuniaires ne devraient être infligées que dans les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, les violences ou menaces contre des représentants d'une autorité devraient être punies par une peine privative de liberté. Les sénateurs ont décidé par 28 voix contre 9 de maintenir leur position.
La Confédération mettra près de 80 millions de francs pour la construction d'infrastructures sportives de 2022 à 2027.
Après les sénateurs, le National a approuvé aujourd'hui cette enveloppe rehaussée de 13 millions par rapport à ce qu'avait demandé le gouvernement.
Les tests Covid seront à nouveau partiellement gratuits.
Ce matin à Berne, le Conseil national a suivi le Conseil des États et validé cette proposition. Le Conseil des États avait introduit une réserve donnant au Conseil fédéral la possibilité d'édicter des exceptions à la gratuité, par exemple pour les tests PCR de convenance pour voyager à l'étranger. Formellement, il faut attendre le vote final sur la loi Covid le 17 décembre pour que la gratuité soit entérinée. Puis le Conseil fédéral décidera de l'entrée en vigueur. Durant les premiers débats, le PLR s'était opposé à cette gratuité avec virulence. Ce matin, il s'est rallié à la majorité sans combattre. Pourquoi ce retournement? La réponse du conseiller national valaisan de Morgin, Philippe Lantermo.
On reste totalement opposé. Simplement, il ne sert à rien de reposer 10 fois la même question aux chambres. Les deux conseils ont voulu la gratuité. Nous avons exposé nos arguments, on a voté et puis à la fin, on en prend acte, ma foi, malheureusement. Au final, ces tests devraient quand même coûter plus de 40 millions de francs par semaine. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est même une mesure contre-productive, puisque avec cette mesure, on va encourager les gens à ne pas se vacciner. Je ne vois pas au nom de quoi la grande majorité des gens qui sont aujourd'hui vaccinés, qui ont fait cet effort de responsabilité collective, doivent prendre à charge les tests de personnes qui ne veulent pas assumer cette responsabilité-là. C'est quelque chose qui me dépasse, même si c'est pour la paix des ménages.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. À noter qu'il subsiste 2 divergences dans la loi Covid remaniée sur 2 sujets sensibles. Le premier, faut-il publier les contrats conclus par la Confédération avec les fabricants de vaccins? Et le second, le Conseil fédéral doit-il tirer les oreilles des cantons qui ne font pas l'effort d'avoir suffisamment de capacités dans les soins intensifs? Les deux conseils ont des avis divergents et ils devront s'entendre la semaine prochaine. Un guide va être créé pour inciter les écoliers à se déplacer en vélo. Créé par l'Alliance École plus Vélo, il est destiné aux élèves, mais aussi aux parents. En Suisse, la pratique de la bicyclette chez les enfants et les adolescents pour les trajets scolaires a régressé de moitié au cours des 25 dernières années. En cause, le manque de possibilités de stationnement, des réglementations restrictives ou l'absence d'une culture de mobilité cycliste dans les écoles ou dans les familles.
Olaf Scholz a été officiellement nommé chancelier par le Bundestag allemand.
L'élection du social-démocrate met un terme aux 16 années de l'ère Angela Merkel. Soutenu par le SPD, les Verts et les Libéraux, l'homme de 63 ans a reçu les suffrages de 395 des 736 députés du Parlement. Féministe convaincu, Olaf Scholz prendra à sa suite les rênes d'un gouvernement composé pour la première fois d'autant d'hommes que de femmes. 3 d'entre elles seront d'ailleurs à la tête de ministères clés, les affaires étrangères, la défense et l'intérieur. Emmanuel Macron a lancé un appel demandant à se garder de manipuler l'histoire. Cela fait notamment allusion à une controverse lancée par Éric Zemmour lors d'un rassemblement. Il avait affirmé que le maréchal Pétain, à la tête du régime de Vichy, avait sauvé des juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. Des propos qui ont soulevé un tollé dans la classe politique, de nombreux responsables estimant qu'il relève du révisionnisme et de l'antisémitisme traditionnel. La police israélienne a indiqué avoir arrêté ce matin une mineure, auteur présumé d'une attaque au couteau ayant blessé au dos une femme dans un quartier de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par l'État hébreu. Un hélicoptère transportant le chef de l'état-major militaire indien s'est écrasé dans l'état du Tamil Nadu. Les faits se sont déroulés ce matin. Le général Bipin Rawat et son épouse se trouvaient à bord de l'appareil avec d'autres officiers. Ils se dirigeaient vers le Defense Services Staff College, institution de formation de la défense. Des vidéos diffusées sur les chaînes d'information indiennes ont montré l'épave de l'hélicoptère enflammé sur le site de l'accident, dans une zone forestière dense près de leur destination. Et on ouvre cette page sport avec du tennis. Stan Wawrinka, 36 ans, ne jouera pas à Melbourne. Le nom de Vaudois ne figure en effet pas sur la liste d'entrée de l'Open d'Australie qui aura lieu du 17 au 30 janvier. Une liste dévoilée hier par les organisateurs. Numéro 1 mondial, Novak Djokovic sera en revanche de la partie, contrairement à Serena Williams. Vainqueur à Melbourne du premier de ses trois titres majeurs en 2014, Stan Wawrinka n'a disputé que 4 tournois cette année. Sa dernière apparition sur le circuit remonte au début du mois de mars à Doha. Il a dû se soumettre depuis à 2 opérations au pied gauche, la dernière en juin.
En basket, le BBC Montéchablais doit prouver aujourd'hui que sa saison est bel et bien lancée.
Battu lors de leurs 8 premiers matchs de championnat de la saison, les Bavalaisons ont en effet décroché une victoire samedi à Lugano. 4 jours plus tard, les Sangliers ont donc l'occasion de confirmer que cette traversée du désert est terminée. Pour ce faire, il faudra venir à bout du BC Boncourt en 8e de finale de la Coupe de Suisse. Pour l'entraîneur assistant montaisan Besrat Temelso, il est vraiment temps que son équipe entre dans sa saison.
Pour nous, c'est clair, on espère vraiment que cette victoire va nous servir de déclic, parce que voilà, je pense aussi qu'on avait un problème de confiance. Typiquement, ce type de rencontre à élimination directe, c'est en cas de victoire, ça peut nous donner un gros gain de confiance après pour la suite, pour aborder le deuxième tour avec plus de confiance. Donc voilà, aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail, notamment en défense, parce que voilà, on a quand même encaissé environ 80 points de moyenne sur ces 4-5 dernières rencontres. Et puis je pense que si on veut effectivement gagner des matchs, il faut absolument pouvoir progresser dans ce secteur-là, pouvoir réduire un peu le nombre de points encaissés. Et puis voilà, ça c'est aussi un des axes de travail qu'on a sur ces prochaines échéances qui arrivent.
La première de ces échéances est donc prévue en fin de journée face à Boncourt, une équipe que les Montaisans avaient failli battre en championnat il y a un peu plus de 3 semaines. Largement dominés en première mi-temps, ils avaient presque réussi le hold-up parfait durant les 20 dernières minutes. De quoi donner des idées à Besrat Temelso.
Pour nous, il faut s'appuyer sur ce qu'on a bien fait contre eux. Notre principale bataille se situe dans le contrôle de la défense et du rebond, parce qu'on a quand même encaissé 56 points en première mi-temps chez eux, et c'était beaucoup de pouvoir encaisser 56 points. Après, en deuxième mi-temps, on a encaissé 30, ce qui était déjà un peu plus dans nos standards. Et puis de pouvoir gagner en constance, parce que c'est ce qui nous a un peu aussi manqué de manière générale sur ce début de saison. D'avoir un bon visage, mais sur une plus longue durée, parce qu'on a affiché des séquences assez courtes de bons jeux, mais malheureusement pas assez pour pouvoir des fois prétendre à la victoire quand on avait des matchs serrés, notamment contre Nyon ou typiquement Boncourt. Et puis qu'à partir de là, on puisse dérouler notre jeu. Je pense que c'est ça qui va aussi faciliter notre jeu en attaque, de pouvoir créer des stops, de pouvoir créer des situations de transition d'attaque, et puis qu'on puisse se calquer sur ces facteurs-là.
Le coup d'envoi de ce 8e de finale de la Coupe de Suisse entre le BBC Montéchablais et le BC Boncourt sera donné à 17h30 à la salle du Reposieux.
En rink hockey, la Coupe des Nations de Montreux pourrait être amenée à disparaître.
La 69e édition est en danger, mais pas à cause de la pandémie de Covid-19, qui a tout de même contraint les organisateurs à la reporter en 2023. Ce sont des dissensions entre la Fédération Suisse et la Fédération Internationale qui mettent le tournoi montreusien dans une situation très délicate. La Fédération Suisse a en effet rejoint l'Union Européenne de rink hockey, composée uniquement de petites nations. Leur but, avoir plus de poids par rapport aux mastodontes que sont l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Mais cette démarche n'est pas du goût de World Skate, qui a décidé de ne plus soutenir la Coupe des Nations. Président du comité d'organisation, Marc-Henri Guibert revient sur les différentes issues possibles par rapport à ce problème de taille.
Pour nous, le scénario catastrophe, mais je dirais le moins probable, c'est qu'ils ne s'entendent pas entre la Fédération Suisse de rink hockey et World Skate, et que finalement, on décide qu'on est pris en otage et qu'on arrête d'organiser cette manifestation. L'autre issue, et j'espère que ce sera la plus probable, c'est que on arrive à s'entendre, les fédérations nationales, autant suisses qu'étrangères, continuent à nous soutenir, et puis qu'on puisse organiser la Coupe des Nations en 2023.
Vous, en tant que président du comité d'organisation, avec les autres membres, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous gardez une forme d'optimisme quand même?
Oui, on est 4 au sein, pour l'instant, du bureau exécutif de la Coupe des Nations, avec Olivier Moitier, Andreas Münger et Stéphane Roubi. On est toujours optimiste et on a toujours le feu sacré pour continuer à organiser cette Coupe des Nations. Personnellement, ça me semble inimaginable que cette Coupe des Nations elle disparaisse, et on fera tout pour que cette Coupe des Nations elle continue à vivre.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter que la Coupe des Nations fête cette année son 100e anniversaire. Mais quoi qu'il advienne, la prochaine édition du tournoi montreusien ne se tiendra pas avant le mois d'avril 2023. Et on termine ce journal avec un mot de hockey sur glace. Marc Barberio ne disputera pas la fin de saison avec Lausanne. Suspendu 8 matchs pour avoir chargé le Zurichois Gareth Rowe à la tête, le défenseur canadien a été prêté dans le championnat de KHL. Il rejoint avec effet immédiat la formation russe de l'AK Bars Kazan, tout en restant sous contrat avec le LHC. Depuis son arrivée dans la capitale vaudoise en 2020, le Québécois a porté le maillot des Lions à plus de 60 reprises, mais il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, malgré son statut de capitaine.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Guérin Guinard à Viona, votre électricien de proximité et spécialiste électroménager qui vous souhaite de joyeuses fêtes. Guérin-Guinard.ch.
Il semblerait que les précipitations de cette matinée devraient quelque peu se raréfier, mais bon, elles resteront présentes tout de même, il faut le savoir, elles vont simplement devenir intermittentes. Pour ce qui est de la neige, on nous annonce qu'elle va descendre jusqu'à 700, voire 500 mètres. On était à 1000 mètres ce matin, elle est là, petit à petit, ça descend. Et puis par la suite, c'est bien noté également que les températures ne sont pas très élevées aujourd'hui en plaine, on n'excédera pas les 5 degrés. À 1000 mètres, on culminera à 1 degré, moins 2 à 2000 mètres. Demain, on gardera des nuages avec encore et toujours des averses de neige. Et puis cette météo, vous la retrouvez en tout temps sur radiochablais.ch et sur notre belle nouvelle application. Enfin, nouvelle, elle n'est plus si nouvelle que ça, mais sur l'application de Radio Chablais.